Nous poursuivons aujourd'hui la lecture de Jérémie et nous avons en Jérémie 14 une double prière absolument bouleversante. Et c'est intéressant quand l'Écriture sainte nous propose des prières, ça nous inspire la prière elle-même. Ici, ça nous renvoie aussi, si je ne m'abuse, aux cantiques qui sont chantés aux vigiles le dimanche, au troisième nocturne, pendant le carême. Quoi qu'il en soit, ici, donc, nous avons un peu un mystère. Le Seigneur me parle ainsi, tu leur adresseras cette parole. Qui parle? Mes yeux fondent en larmes. Les yeux de qui? Et je pense que l'ambiguïté est volontairement laissée. Il semble que ce soit le prophète qui parle, mais il parle au nom de Dieu, donc en fait c'est de Dieu dont il parle. Et ici nous mesurons un aspect de Dieu dont nous n'avons peut-être pas beaucoup l'habitude. C'est que ce Dieu impassible souffre, est désolé. Et alors depuis l'incarnation, cela prend du sens pour nous, puisque nous avons vu ce que pouvait représenter la désolation de Dieu dans le comportement de Jésus dans sa vie. Et cette prière, cette première prière s'achève avec cette phrase terrible, même le prophète et le prêtre ne comprennent rien. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où c'est la catastrophe, quoi. On n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et puis il y a la réponse de Jérémie. Il y a la réponse de Jérémie dans un deuxième temps. « Seigneur, as-tu donc rejeté Juda pour toujours ?» Avec ce rappel que c'est Dieu qui fait tout, que c'est Dieu qui est puissant, et s'il est puissant, il peut aussi arrêter la calamité. Parce qu'il est puissant, il peut aussi arrêter la calamité qui pèse sur Juda. Donc une très très belle prière. Et je la garde en réserve pour y revenir un tout petit peu tout à l'heure, car dans l'évangile, nous avons la suite de l'évangile de samedi sur la zizanie, ou l'ivraie, et nous apprenons le sens de cette parabole par le maître lui-même. Donc évidemment, quand Jésus explique une parabole, on se tait et on écoute. Et c'est impressionnant d'entendre le maître lui-même donc nous dire ce que ça veut dire. Et nous apprenons que l'ennemi fait comme Dieu. L'ennemi, c'est donc le diable, et en fait, il imite Dieu. C'est important de savoir cela, car parfois, on peut penser que des gens ont des vertus, des choses très belles, etc. Et ça peut être parfois de l'imitation. Et même la personne qui en est porteuse ne se rend pas compte quel est le jeu du diable. Donc c'est important de savoir discerner, bien discerner entre l'ivraie et le bon grain. Jésus dira ailleurs, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Attention, des fruits, il y en a tous les ans, voire parfois plusieurs fois par an. Donc les fruits, c'est pas une fois pour toutes. On vérifie si les fruits sont bons à chaque fois qu'il y a des fruits. C'est important ça. Et donc je disais, l'ennemi fait comme Dieu. Alors en hébreu, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, comme, ça veut surtout dire pas comme. C'est-à-dire que pour nous, quand on dit bon, c'est comme si tu fais ça, ça veut dire c'est pareil, c'est identique. En hébreu, c'est comme, ça veut dire ben, c'est pas tout à fait pareil en fait. Donc c'est important de savoir que cette Ce parallèle en hébreu insiste plus sur le fait que c'est pas identique que sur le fait que c'est identique. Il y a une similitude, il y a un presque pareil, mais il y a presque, non, presque pareil. Voilà, et on constate que la présence du diable n'est pas éradiquée. Dieu aurait pu, hein, la plus grande calamité que le monde ait jamais connue est celle du péché originel. Et on pourrait s'imaginer, ben, Dieu n'a pas été capable d'arrêter le péché originel. Ben si, 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 si. Puisque la Vierge Marie est immaculée, elle n'est pas marquée par le péché originel. Donc Dieu aurait pu, bon, on le savait déjà, hein, c'est pas un scoop, mais là on le voit, Dieu aurait pu. Et Dieu n'a pas empêché cette prolifération de ce péché qui fait que nous faisons des péchés. Pourquoi il ne l'a pas fait? C'est lui qui le sait, mais ce que nous savons, c'est que s'il ne l'a pas fait, c'est que ça ne l'empêche pas d'accomplir son projet. Et son projet est encore plus beau. La rédemption est encore plus belle. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Et justement, ça fait, comme je le disais, je l'évoquais tout à l'heure, ça fait un écho à la première lecture, où nous ne comprenons parfois rien en disant, mais enfin, où va-t-on? Dans l'actualité récente, que je ne suis pas du tout, mais c'était un peu inévitable d'en entendre parler au sujet de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, il y a une chose qui m'a un peu déçu, je dois dire, mais qui n'est peut-être pas celle à laquelle vous pensez, c'est qu'il y a eu pas mal de réactions pour dire, voilà, ce qu'on a vu, c'est scandaleux, les parodies, bon, alors déjà, il y en a quelques-uns qui auraient peut-être pu se réjouir que les juifs et les musulmans n'aient pas subi ces outrages-là. Je crois que personne ne l'a fait, d'une part. Mais d'autre part, on oublie un peu les béatitudes, hein. En Matthieu 5,11, nous lisons: Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira faussement toutes sortes d'infamies à cause de moi. Et après, il y a écrit quoi? Soyez dans la joie et l'allégresse. Eh bien, en fait, cette parodie dans les JO, ça aurait dû nous faire sauter en l'air de joie. C'est ce qui est écrit en Matthieu. Non pas parce que c'est une parodie et un blasphème, évidemment, mais parce que c'est ce que Jésus nous a dit. Jésus nous dit, quand on vous insulte et qu'on vous persécute, sautez en l'air de joie. Pourquoi? Car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Il y a quelque chose de prophétique dans cette persécution, dans ce blasphème. Pourquoi on attaque les catholiques? Parce que les catholiques ont encore quelque chose à dire, qu'ils sont vivants et qu'ils seront vivants éternellement. L'Église n'a pas a les paroles de la vie éternelle. Hein. Ça n'intéresse pas de s'attaquer aux autres, parce que les autres, bon, voilà. Enfin bref, voilà, petite digression un peu longue du reste, mais ça nous fait un peu réfléchir, ça. Hein? Allons vivre de l'Évangile plutôt qu'autre chose. Et puis donc, cette parabole expliquée par Jésus, il nous montre bien qu'il s'agit de la fin du monde. Donc il y a une justice, hein, parce qu'à la fin, on sépare les bons des méchants. Donc la justice, elle existe bien, mais il y a le temps. Voilà. Dieu a concédé le temps. Et donc, eh bien, faisons notre travail en sachant qu'il y aura une justice. La différence entre ceux qui croient en un monde après et ceux qui n'y croient pas, c'est que les premiers savent qu'un jour, la vérité resplendira. Et au fond, quand nous avons envie de faire un péché, une tentation, on devrait se dire, tiens, écoute, va te mettre au milieu de la place du village, là où tout le monde voit, et fais ton péché. Peut-être ça nous calmerait. Pourquoi je dis ça? Ben parce que là, c'est en public. Et le diable aime bien que ce soit caché. Donc voilà, aujourd'hui, là aussi, la justice, les bonnes œuvres que nous faisons sont cachées. Le monde n'en est peut-être pas digne, mais elles sont cachées en tout cas. Alors qu'à la fin, les justes resplendiront comme le soleil. Je ne sais pas si vous imaginez la lumière qu'il va y avoir. Je conseille de prévoir des lunettes de soleil parce que ça va être torride. Il faut que nous ayons ça à l'esprit, vous comprenez. Sinon, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, hein, comme le dit Paul. Voilà. Donc voilà, que cette revenons toujours à cette merveilleuse prière de Jérémie, qui ne peut pas ne pas toucher le cœur de Dieu, puisque ses yeux fondent en larmes. Et puis ayons cette joie surnaturelle de cette ultime béatitude. Hein. Je reviens à Matthieu 5, 11. Hein. Heureux êtes-vous quand on vous insulte. Eh bien, nous avons été insultés comme catholiques, et ça s'est vu dans le monde entier. Alors peut-être en dehors de la France, il y en a qui ont sauté en l'air, j'en sais rien. Voilà, eh bien, que Dieu nous donne cette joie qui est le signe, comme le dit Bergson, de la réussite de la vie. La joie est le signe que la vie a réussi. Amen.